Marseille, capitale du grand reportage, s'est déroulée du 13 au 15 octobre au Conseil général des Bouches-du-Rhône. Pour sa 4e édition, cet événement a mis les femmes à l'honneur avec le thème « Femmes de Méditerranée à l'heure des révolutions ». Le printemps arabe peut-il garantir une presse libre et indépendante ? Amel Béjaoui est journaliste et travaille pour l'agence Tunis Afrique Presse. Elle milite aussi au sein de l'association tunisienne des femmes démocrates. Elle dresse un bilan mitigé de la liberté de la presse, 9 mois après la chute du président Ben Ali. Elle témoigne de ses attentes à l'approche des élections de l'Assemblée constituante qui se dérouleront le 23 octobre prochain.
Amel Béjaoui, journaliste tunisienne, je suis plutôt agentière.
Donc, après 8 mois après la chute de Ben Ali, quel bilan vous établissez par rapport à la liberté de la presse ?
Le bilan est plutôt négatif, disons-le tout de suite, parce que la plupart des entreprises de presse sont encore dirigées par des gens de l'ancien système qui ont été nommés pour des critères d'allégeance plus qu'autre chose et qui sont encore là, dans un contexte où le RCD, c'est-à-dire le parti de Ben Ali, le Rassemblement Constitutionnel Démocratique, essaye de se réorganiser à travers d'autres partis politiques sous d'autres bannières pour se présenter à la constituante. Donc tout est fait pour que les choses retardent au maximum afin de gagner du temps pour essayer de récupérer un terrain qu'il considère légitime quelque part, après 23 ans de règne et d'accaparement du secteur de la presse.
D'accord.
Voilà, c'est un peu le contexte.
D'accord, donc c'est du coup un contexte de césure qui est assez difficile.
Il est très difficile, surtout qu'avant, les limites étaient bien délimitées, bien définies. Il y avait le système et nous, les journalistes indépendants. Aujourd'hui, il n'y a plus le système, l'échiquier est tombé, il n'est plus visible, mais on sait, on le sent, que les résidus de l'ancien système sont encore là et qu'ils détiennent les rênes du secteur et essaient de tirer vers l'arrière et tous les moyens sont bons, y compris par la saisie de certains textes qui organisent le métier, tels que le décret loi sur l'audiovisuel ou le code de la presse, des choses comme ça qui ont été adoptées par la haute commission, par la haute instance pour la transition démocratique, mais qui ne sont pas encore passées par le Conseil des ministres pour être définitivement effectif.
D'accord.
Voilà. Ouais. Et sans aucune explication, on attend, on proteste, on revendique, mais rien ne vient jusque-là. Ce qu'on essaie de faire, c'est faire pression, c'est revendiquer, c'est appeler, c'est envoyer faire des sit-in, envoyer des communiqués, faire pression au sein même des entreprises de presse ou en tant que corporation, on essaie de s'organiser. En ce moment, il y a une initiative spontanée qui est venue d'un groupe de personnes que je coordonne personnellement pour essayer de mettre de l'ordre dans la maison de la presse, justement. Parce que les choses ne sont pas claires du tout. Les indépendants se sentent pratiquement en danger, plus que jamais qu'avant. Parce qu'avant, on avait besoin de nous, vu l'expérience, etc. On voulait nous garder sans pour autant nous donner nos droits, ni des avantages quelconques. Aujourd'hui, on ne sait pas à quel moment on peut se trouver dehors carrément.
Ouais, ouais.
C'est-à-dire notre situation est vraiment précaire. Et de manière très sournoise. Les élections, on les attend avec impatience parce que tous les textes vont être adoptés, ceux qui attendent jusqu'à ce jour. La Constitution va être écrite. Nous tenons à ce que la liberté de la presse et d'expression soit inscrite dans la Constitution et clairement articulée. Ça, nous le revendiquons aussi. Et après cela, il va y avoir un gouvernement permanent, on sortira de cet état du provisoire, il y aura des institutions de l'État qui seront là définitivement, et à ce moment-là, la vie, on l'espère en tout cas, s'organisera mieux.
Donc les gens attendent les élections.
On attend avec impatience, oui.
D'accord,
tout à fait.
Ouais.
C'est très important.
Quel rôle vous avez, quel rôle ont joué les femmes justement dans les révolutions en Tunisie ?
Écoutez, les femmes n'ont pas été uniquement pendant la révolution, elles étaient là depuis très longtemps, depuis plus de 20 ans, hein. Structurées ou pas d'ailleurs, à plusieurs niveaux. Elles ont joué un énorme rôle, elles ont fait un travail de terrain extraordinaire et qui a beaucoup servi en temps de révolution. Quand les jeunes sont sortis, les femmes, entre autres, celles qui étaient là depuis longtemps, avaient sorti tout ce background, tous ces dossiers, tout ce travail qu'elles ont fait qui n'était pas visible de par la censure, de par le caractère autonome de ces associations, y compris féministes. Et il a beaucoup servi à soutenir, d'une manière objective et d'une manière sensée, tous ces mouvements de révolte. À part le fait que les femmes sont sorties dans la rue, elles ont manifesté, elles ont pris des risques, elles ont reçu des balles, etc. etc. Mais elles ne sont pas là qu'aujourd'hui. Hein,
ça, non, c'était un mouvement qui était organisé depuis longtemps.
Voilà, tout à fait. Et... Tout à fait. Surtout les deux associations principales qui sont la TFD, l'Association tunisienne des femmes démocrates, et l'AFTUR, l'Association des femmes tunisiennes pour la recherche sur le développement. Ce sont des associations qui sont issues du mouvement féministe des années 70 et qui ont toujours été présentes, qui ont toujours revendiqué, qui ont un statut régional, international. La TFD, par exemple, nous avons même un statut d'observateur auprès de l'ONU, où chaque année nous présentons un rapport bien élaboré, bien fignolé à l'ONU pour contrecarrer le discours officiel de l'État sur la question de la femme et dire voilà ce qui ne va pas et voilà ce qu'il faut faire.
Ouais, ouais.
Et ça constitue une des formes de pression, pas seulement ça.
Est-ce que ces femmes qui militent déjà, qui militaient déjà avant ont pu s'organiser de façon plus officielle au sein des associations et du coup pouvoir maintenant peser sur la politique qui va arriver ? Est-ce qu'il va y avoir une prise de parole plus conséquente ?
Que nous avons pu obtenir la parité, gagner la bataille de la parité, avec alternance obligatoire pour les élections, c'est ce qui a été fait.
Bon, ouais.
Malheureusement, la règle n'a été respectée en termes de pourcentage que par le pôle démocratique moderniste, qui est une coalition constituée de trois partis d'opposition, plus beaucoup d'indépendants surtout. Mais bon, en tout cas, c'est une obligation. C'est-à-dire, sans ça, on ne peut pas se présenter aux élections. Ça, c'est une vraie bataille qu'on a gagnée. Et la plupart de ces filles, comme on dit chez nous, ces filles se sont présentées sur des listes électorales. Comme elles ont de l'expérience, elles ont eu un apport extraordinaire auprès des associations nouvellement nées, qu'elles soient féministes ou pas, mais en tout cas féminines principalement. Et voilà, on est un peu partout, chacun essaie d'être utile et d'être présent dans la vie publique, mais d'une manière effective et réelle. Ouais. En dehors d'un certain discours et de certaines tentatives qui ont été échouées jusque-là par le régime de Ben Ali, parce qu'il fallait payer le caractère autonome de nos actions. Il fallait ou alors travailler sous la houlette du régime en place, sous la dictature, comme l'ont fait la plupart des associations qui existent en Tunisie, ou alors payer le prix de son indépendance.
Une entrevue à retrouver sur radiogrenouille.com.